Bonjour, bonjour, comment ça va bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Comment est l'image? Comment est le son? Je revois un petit peu le cadrage. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Salut Samuel, 5 sur 5, nickel, super. Bah écoutez, moi ça va mieux qu'hier. Pour l'instant, j'ai le nez qui coule. C'est bon, j'ai des mouchoirs, hein, si jamais y a un gros problème. Mais ça va, je ne suis pas trop pris ni trop groggy. Bon, en même temps, je suis un peu bourré de cachet. Hein? Voilà, mais ça va quand même. Ça va, merci pour ceux qui demandent. Par rapport à hier, ça va un petit peu mieux, ouais, effectivement. Mais bon, je connais les rhumes. Ça peut aussi, en milieu de semaine, être pas bon du tout. Voilà, allez, on commence par remercier nos tipeurs du matin. Ce matin, j'aimerais remercier Olivier, Gonzague, Nidayor, Xaem et Medralic. Merci à vous, les gars. Merci les tipeurs, les gars et les filles, hein, d'ailleurs. Merci à vous, les tipeurs, sans qui nous ne serons rien. J'en profite, parce que j'ai regardé un petit peu les tips ce matin, effectivement, pour bien vous rappeler, si vous voulez continuer. Merci, Pascal, pour ton super chat d'entrée de jeu. Je vous rappelle de bien regarder vos cartes bleues et si tout se passe bien au niveau de Tipeee. Parce que là, effectivement, on enregistre une baisse en ce moment. Pas tellement du nombre de tipeurs, mais je pense que on doit arriver dans des grosses saisons de renouvellement des cartes bleues. Donc, si vous voulez continuer à nous vous soutenir, n'oubliez pas, on a vraiment besoin de vous tous les mois. Il vaut mieux que vous donniez 1 € par mois, mais régulièrement, ça nous aidera à grandir. Et je ne veux rien spoiler, mais on va grandir. Voilà. Mais je spoil rien. J'ai pas le droit de vous le dire. Ta carte est bonne, le versement, c'est pas fait. Il faut voir avec Tipeee s'il y a un problème. S'il y a un souci chez Tipeee, effectivement. Je vais essayer de voir de mon côté pour voir. Je vais leur dire que certains nombre de personnes, vous êtes t'es pas le premier à me le dire. Certains ont eu des problèmes, effectivement, de prélèvement chez Tipeee. Non, j'ai rien dit du tout. Je me suis engagé à rien. Voilà. Je vous ai juste rien dit. Voilà. Allez, de quoi on va parler ce matin dans Dexcom? C'est une excellente question à laquelle je vais vous répondre. Et comment j'ai bouché le trou du mec qui cherche son sommaire. On va parler d'Elon Musk. Elon Musk qui dit que pour que l'humanité survive, il faut qu'elle parte sur Mars. Ah, d'accord. OK. Et le prix du billet? Ah ouais, ouais, quand même, hein. Bah, on va peut-être se laisser crever, alors. Good morning, Jérôme, pas mal. On parlera également de crypto-monnaie, puisque l'enseigne Grobil va accepter le paiement avec des Ethers. Eh oui, eh oui, eh oui, coup marketing. Ouh, coup marketing, on en parlera. Faisselle, tu me poseras la question en fin d'émission. Là, je fais les articles. Si je commence à prendre des questions plein milieu d'émission, on n'y arrivera jamais. Mais vers 9h, il y a un vide ton fac. Tu pourras me poser toutes les questions que tu voudras sur le Shadow. On parlera également de Dropbox. Dropbox qui a fixé sa valorisation pour sa prochaine IPO, son entrée en bourse. Donc, on en parlera, ça sera un petit peu de la brève. On parlera également d'Apple qui a acheté Texture. Et je vous dirai ce que c'est que Texture. On parlera également, y aurait-il dans les cartons de Google un rebranding, un renaming, un changement de nom, hein, en français, pour Android Wear? Peut-être, peut-être pas. On verra. On parlera un petit peu photo en fin d'émission, puisque je vous montrerai d'abord un travail magnifique d'un artiste qui s'appelle Lux. Le travail s'appelle, sa série s'appelle Lux Noctis. Vous verrez comment, en mettant un gros projo LED sur un drone, eh bien, on obtient un travail assez fantastique. Langue de geek ne s'est pas trompé de compte. Très bien, bravo, langue de geek, bravo. Et on parlera également de l'appareil photo le plus cher du monde. Hein. Quand vous êtes là à pleurer sur des Sony A7 III, parce qu'ils vont être à 2000 euros, c'est trop cher. Moi, je voulais un appareil photo qui fait de la 4K 60 images secondes à 50 euros. Eh bien, sachez-le, l'appareil photo le plus cher du monde ne fait pas de la 4K et il coûte 2,4 millions d'euros. Ah oui, à là, tout de suite, hein, ça remet les choses en perspective. Hein. Tout le reste est low cost. Hein. Je vous en parlerai en fin d'émission. Carte bleue vérifiée, bonne jusqu'en 2020, prélèvement, ok, bravo. Bravo à toi, Sultan. Ah, j'ai un petit problème. Bon, faut pas trop que je touche à l'appareil. Faut que je revisse mon pied. Voilà, voilà, pour le sommaire de ce Techscope. Je vous propose sans transition aucune d'attaquer le premier article où nous allons parler effectivement d'Elon Musk. Elon Musk qui en ce moment est à South by Southwest. Hein. D'ailleurs, j'ai la tasse. J'y suis pas, mais j'ai la tasse. Hein. C'est déjà bien. En fait, il me faudrait juste une tasse de tous les events. Et comme ça, je vous ferai croire que j'y suis. Un green screen, hop, et puis c'est bon. Pourquoi se casser le cul? Elon Musk, pourquoi il nous dit que l'humanité, si elle veut survivre, elle doit partir sur Mars? On pourrait penser que c'est la solution. Oui, et d'ailleurs, c'est grâce à toi, Damien, qu'on est raccord. On pourrait penser que c'est à cause de la pollution. Elon Musk nous la joue Wally. Eh bien non, pas du tout. Il nous dit que l'humanité court à sa perte, c'est certainement à cause de l'intelligence artificielle. C'est son cheval de bataille, hein, c'est sa petite lubie en ce moment. Elon Musk craint l'intelligence artificielle, il craint le Doomsday. Lui dit qu'on va probablement rentrer dans une troisième guerre mondiale et ça sera pas à cause des ressources, ça sera à cause de l'intelligence artificielle, qu'on va se massacrer sur Terre et que potentiellement on devrait envoyer une partie de l'humanité sur Mars, comme ça elle verrait le conflit de loin et elle pourrait du coup coloniser d'autres planètes et perpétrer notre civilisation à travers les temps infinis. En dehors de ça, il faut savoir que ces critiques de l'intelligence artificielle sont très critiquées. Merci Julien pour ton super chat. Sont très critiquées par des spécialistes justement de l'intelligence artificielle qui dit que il avance un scénario peu crédible. C'est vrai que, en fait, le truc c'est qu'avec l'intelligence artificielle, c'est assez facile de psychoter. Mais quand vous regardez vraiment des mecs à la pointe de l'intelligence artificielle qui vous expliquent qu'on est vraiment dans le fantasme quand on regarde Doomsday, ce genre de choses. Pardon, excusez-moi, hein, mais c'est ça où ça va sortir tout seul pendant l'émission. Désolé pour les détails. Mais bon, hein, voilà, un rhume, c'est un rhume. Hein. Bien sûr que les spécialistes, c'est leur business, ils vont pas vous dire le contraire. Mais quand même, il y a des scientifiques qui vous expliquent quand même l'intelligence artificielle. Pourquoi aujourd'hui, l'intelligence artificielle, bah, c'est un peu au niveau d'une méduse de mer, quoi. Quoi qu'il n'y a pas d'autres méduses que des méduses de mer. Mais voilà, c'est un peu une intelligence de méduse et que ça serait pas forcément intéressant même d'aller au-delà. Spécialiser les intelligences artificielles, oui. Mais partir sur des trucs cognitifs, avec ce qu'on voit dans les films, des HAL et tout ce genre de trucs qui prendraient le contrôle et qui se retourneraient vers l'humanité en jugeant qu'elle est trop dangereuse pour l'avenir de l'humanité elle-même, enfin ce genre de fantasme, pour pas mal de scientifiques, c'est de l'ordre quand même d'un fantasme normal, mais un peu de nos angoisses. Non, mais une méduse qui ferait de la traduction, mais elle pourra pas faire autre chose que de la traduction. Après, peut-être qu'Elon Musk sait des choses qu'on ne sait pas, et bien sûr, vous avez raison d'être critique, mais posez-vous quand même la question, est-ce qu'il est plus facile d'un point de vue même marketing? Parce que, quelque part, Elon Musk, il a un agenda aussi. Hein, à nous dire, le vaisseau pour Mars, il est prêt en 2019, on va y aller, machin, il pousse ses propres billes. Donc, tout le monde a un agenda. Il faut rester sceptique d'un côté comme de l'autre. Attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des dangers avec l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a certainement des règles à adopter. Et il va falloir légiférer sur le sujet et avant qu'on se retrouve avec des gros problèmes. Parce que même si les intelligences artificielles sont des méduses spécialisées, on le voit, on en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté, ne serait-ce qu'avec les voitures autonomes, certaines prises de décision, notamment par exemple dans des véhicules, qui peuvent aboutir à la mort d'un humain, selon la décision de l'intelligence artificielle, il va falloir quand même qu'on régule là-dessus, même en termes de responsabilité. Aujourd'hui, on est toujours au point mort là-dessus, c'est qu'a priori, s'il y a un accident impliquant des intelligences artificielles et qu'il y a mort d'homme, c'est un peu les développeurs derrière cette intelligence artificielle qui seront responsables. Donc vous voyez, il y a des problèmes quand même importants autour de l'arrivée. Alors je sais que le terme intelligence artificielle est tellement galvaudé que ça ne veut plus rien dire, parce que maintenant vous avez de l'intelligence artificielle dans les boutons home de smartphone, enfin on le met à toutes les sauces. Je pense qu'après Elon Musk, moi je pense quand même, enfin je vais vous dire, le fond de ma pensée, moi je dis même pas il faut qu'on aille sur Mars, je dis c'est inévitable qu'on aille sur Mars. Je pense fondamentalement qu'on a quelque chose qui nous pousse en tant que civilisation, qui nous a fait traverser le ruisseau quand on mangeait encore de la viande crue, qui nous a fait traverser la mer. On a une part en nous d'explorateur, et même si on nous dit que c'est impossible et que ça se fera jamais et que ça sert à rien, on le fera quand même. Oui, alors évidemment, ça se mélange avec le côté conquérant. Bien sûr, c'est des conquistadors menés par l'avidité qui est sans vergogne, qui ont conquis des terres nouvelles. Je dis pas qu'on est, on a quand même aussi le côté positif. On est des découvreurs, et je pense que c'est un instinct fondamental chez nous. Parce qu'on a beau se dire ça sert à rien, ça coûte trop cher, c'est pas machin, pour moi c'est inévitable, ça va nous obséder quoi. Après, Sinaï, pour ce genre de questions, attends la fin de l'émission, parce que alors là, si je commence à te répondre sur le GH5 en plein article sur Mars et Elon Musk, ça ferait un peu tâche dans une émission quand même qui fait une revue de presse. Comment faire en sorte que l'intelligence artificielle ne nous suive pas sur Mars? C'est un bon raisonnement, Damien. Hein, est-ce qu'il faudra, on coupera le câble RJ45. C'est aussi simple que ça. Comme il y aura un long câble RJ45 entre la Terre et Mars, il suffira de le couper et hop, plus d'intelligence artificielle. Mais moi je dis, pourquoi on n'enverrait pas les intelligences artificielles sur Mars? Comme ça, c'est un peu plus loin, quoi. Vous aurez compris pourquoi je ne suis pas Elon Musk. J'imagine bien le mec qui branche sur RJ45. Qui fait, putain, ça tire un... Il manque une longueur, les gars. Ça tire un peu, quand même, hein. Putain. En plus, j'ai pété la petite patte de mon connecteur RJ45, donc il va falloir mettre du scotch pour que ça tienne. Bon, allez, qui est prêt à partir sur Mars dans la chatroom? Qui est prêt? Allez, hop, on file des billets. Lèche du mou. Damien est prêt. Ok, on dira pas le reste du nom. Toi, pas mal. Meganat, elle est prête. Nolan, il est prêt. Technique Savoir, non trop vieux, alors. RP, oui. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Ah bah ouais, mais il fallait être là au début. Pas moi, non. Bien sûr que oui, moi, pour les billets. Bon, alors, mais vous êtes prêts de faire le... C'est quoi? C'est un voyage de 8 mois, quand même? 8 mois avec des chiottes collectives, quoi. À manger des gélules. Puis arriver là-bas, je veux pas être pessimiste, hein, mais... notre génération, ça risque de pas être jojo, hein. On vivra, vous avez vu, il faut faire pousser ses salades avec du caca, hein. Si vous avez vu Seul sur Mars, là, ou je sais plus quoi. 8 mois sans Texcope. 8 mois dans l'espace, trop bien. Ouais, on dit ça, on dit ça. Ben oui, il n'y a pas d'oxygène. Vous serez obligé de vivre dans des petites capsules. Et l'internet là-bas, pour les lives, ça va pas être top, hein. Ah ouais, non, c'est pas la vie à bord de l'Enterprise, hein, on n'y est pas encore. Hein. Ouais, il y a la moitié de mon Tipeee là qui va partir sur Mars, donc j'essaie de les dissuader. Est-ce que tu penses que c'est réalisable de mettre 1 million d'êtres humains sur Mars? Bah, de ce que je sais, si tu regardes les phénomènes historiques, c'est que des choses qui paraissent impossibles, bah, s'avèrent vraies. Je pense que pour mettre 1 million d'humains sur Mars, il faudrait effectivement un certain nombre de phénomènes sur Terre qui poussent à une colonisation, comme ça s'est passé avec le Nouveau Monde. Ne l'oublions pas, hein, c'est grâce aux guerres de religion et parce qu'on a pourchassé des minorités etc. qu'il y a une colonisation du Nouveau Monde. Donc allons-y, votons utile, votons quelques dictatures afin de chasser des personnes sur Mars et la colonisation se fera. Tu viens avec nous. Ah, c'est pas con ça. En fait, je viens avec vous et puis Texcope se déroule sur Mars. Donc, 1 million, aujourd'hui, ça n'aurait pas forcément du sens, mais on ne sait pas ce qui nous attend demain. Entre la pollution, les guerres, l'intelligence artificielle, ce genre de trucs, il y aura peut-être des raisons de partir. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord, Vincent. Aujourd'hui, de toute façon... Ça va se passer selon les dynamiques habituelles de la civilisation. Au début, vous aurez des pionniers qui partiront. Et c'est pas des problèmes de rentabilité. Ça sera plus pour le côté, il faut y être. Ces pionniers vont se mettre à construire des bases de ce que pour. Et puis après arriveront les colons. Mais les colons, là où je suis d'accord, n'iront que quand il y aura une utilité, soit économique, soit une nécessité. Et après, vous connaissez ma phrase, une de mes phrases préférées. C'est effectivement rarement les pionniers qui font des colons. C'est deux types humains complètement différents. Les premiers sont rarement ceux qui réussissent, dans le sens où ce qu'il faut pour être un pionnier, c'est pas la même chose qu'il faut pour être un colon. Et quand je parle de colon, je parle de colonisateur. Je parle pas de... Voilà, hein. Vous avez déjà, il est 8h... Il est quelle heure? Il est déjà 8h20 du matin et vous avez déjà l'esprit mal tourné. Je ne vous félicite pas, la chatroom. Ouais, il n'y a pas que l'esprit qui est mal placé. Le colon aussi. Est-ce que tu penses que si personne veut y aller, on va être obligé d'aller faire des enfants pour les mettre dans la fusée? T'sais, à la limite, hein, t'auras plus de problème avec Tinder, hein, enfermé dans la fusée, t'auras un choix limité, et puis à un moment, il faudra bien y aller. Hein. Eh, faut la perpétrer, la civilisation. Tout le 15e... Nous, notre projet, c'est d'envoyer tout le 15e arrondissement sur Mars. Voilà. Et Paris sera une ville où il manquera un arrondissement. On passera du 14e... Au 16e. Mon Dieu! Tout le 15e sur Mars. Dans la fusée, je veux une place près du hublot. T'es fou! Tu sais bien que le hublot, il explose toujours. Et que c'est celui qui est à côté du hublot qui parle premier dans l'espace. Et tout le monde n'est pas Princesse Léa. Hein. Perpétuer, pas perpétrer. Oui, j'ai dû me tromper de mot, pardon. Le 15e sera colonisé par le 16e. Par le 18e. Non, le 18... Bah, en même temps, on l'a déjà colonisé, hein, Paris, hein, le 18e. Hein, je vous rappelle la commune, quand même. Bon, ça n'a pas duré longtemps, cela dit, mais... On doit mettre nos laptops en soute pendant 8 mois. Excellent, excellente question. Excellente question. Il faudra voir. Allez, on pourrait broder. Elon Musk, je pense que... Après, je pense qu'il a raison de nous mettre en garde sur l'intelligence artificielle. Après, je trouve le ressort un petit peu facile. Mais, vous savez, Elon Musk ne serait pas Elon Musk s'il n'avait pas ce petit côté fantasque aussi. Ça fait partie du personnage. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dangers à l'intelligence artificielle. Après, le Doomsday... Paradoxalement, plus je regarde des documentaires sur l'intelligence artificielle, je vous conseille celui sur le jeu de Go, là, machin, plus je m'informe sur l'intelligence artificielle, moins je crois à Doomsday, en fait. Mais c'est moi, en tout cas. Mais informez-vous. Voilà. Au niveau des annonces, pas grand-chose ce matin. Je vous rappelle que j'ai sorti une vidéo hier... Qui va intéresser, si vous intéressez un peu, au monde merveilleux et terrible des constructeurs photo, la guéguerre Canon, Nikon, Sony, Panasonic et les autres, puisqu'on a parlé avec Albert et Olivier Schmitt de la sortie du Sony A7 III, qui pour nous est un vrai pavé dans la mare, et qui risque de changer pas mal la donne chez les constructeurs photo. Donc c'est vraiment un débat, hein, l'ancienne. On dirait presque un débat de Scuds, d'ailleurs c'est le même décor. Donc un débat à l'ancienne, sans qu'on teste, c'est pas du tout un test du produit ou quoi que ce soit. C'est plutôt qu'est-ce que ça va changer dans le monde de la photo. Voilà. Donc, c'est assez nerd photo-vidéo. Hein. Si vous n'êtes pas du tout dans la photo-vidéo, c'est même pas la peine de regarder la vidéo. Oui, c'est plus qu'un pavé. Bah, d'ailleurs, la vidéo s'appelle « C'est une boucherie ». Ah ouais, moi, je pense qu'il va y avoir des morts. Hein. Je pense qu'il va y avoir des morts. Tu comprends pas l'intérêt de l'A7 III par rapport à l'A7 R3 ? C'est très simple, Loïc. Le prix. Regarde le prix de l'A7 R3 et le prix de l'A7 III. Et qu'est-ce qu'il a vraiment en moins par rapport à l'A7 R3 ? Peu de choses. Et c'est quand même une différence de prix énorme. Ah oui, ne regardez pas la vidéo si vous êtes Nikoniste dans l'âme. Vous allez détester Albert. Ah, ça, c'est... oui, désolé, je ne l'ai pas rangé. Ça, c'est une... mais on va vous en parler bientôt. C'est une lumière, ça. C'est ma grande softbox sur la COP 120 d'Aputure. C'est de l'éclairage. Le studio. Et je ne l'ai pas rangé. Allez, on continue dans les news. Pour parler rapidement, Grobil, l'enseigne Grobil va accepter les crypto-monnaies pour que vous puissiez vous acheter des produits. Ça sera l'Ethereum qui a été choisi et pas le Bitcoin. On sait hein, que le Bitcoin représente de vraies difficultés en termes de transactions parce que d'abord, il bouge énormément et les délais sont très longs. Et ça coûte très cher les transactions en Bitcoin. Donc là, Grobil adopte l'Ethereum. Alors, ce n'est pas les seuls. Hein. On sent bien que l'Ethereum, qui normalement à la base n'est pas vraiment fait pour être une monnaie, si je ne me trompe pas, c'est parce que c'est l'unité de compte de la plateforme Ethereum, hein, l'Ether. Mais c'est quand même déjà utilisé, effectivement, notamment, je crois, par le SAMU Social de Paris, l'UNICEF, pour pas mal de projets caritatifs dont on avait parlé. Oh merde ! Ah oui, désolé, on voit un bout de mon linge. J'avais pas vu. Tenez, je recadre. Hop ! Voilà qui est mieux. Oui, c'est Auchan hein, qui est derrière Grobil. Alors, c'est pas non plus hein, la première enseigne qui s'intéresse aux crypto-monnaies. Certains, à une époque, acceptaient le Bitcoin, sont revenus en arrière. Il n'y a pas grand-chose hein, aujourd'hui avec le Bitcoin, je crois. Hein, Auchan l'a revendu en 2015. Ah oui, remarque, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui ça appartient, Grombil. Bon, est-ce qu'on peut parler d'un coup marketing? Bien évidemment. C'est une manière de faire parler de Grombil. Je vais aller au collège, je continue comme ça. Ah, d'accord, donc tu ne peux pas poser ta question. Écoute, va voir une vidéo que j'ai faite sur la chaîne où j'explique comment me poser des questions. Il y a les facs, les vies de ton fac. Oui, j'ai toujours pas tourné le deuxième, mais j'ai pas encore eu le temps. Essaye un jour, si tu as cours un peu plus tard, de venir poser ta question en fin d'émission. Bref, oui, c'est un coup marketing, mais bon, on va pas leur en vouloir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vont utiliser de l'éther pour acheter du matos sur Grombil. On verra. D'accord, 2005, rachat par Auchan, 2015, rachat par Mutuares, 2017, rachat par Luc Bocon, d'accord, c'est plus à Auchan. Rachat. Quoi, les super chats? Il y a eu un super chat à 500 euros? Qu'est-ce que tu dis, langue de geek? Attends, est-ce que d'ailleurs, ils ont réparé le truc de super chat? Eh ben, ah si, ils l'ont un peu. Non, non, il y a eu deux super chats pour l'instant, Julien et Pascal. Ça a l'air d'être un petit peu réparé. Putain, j'ai cru qu'il y avait un super chat à 500 euros. Super. Oui, c'est un super, c'est un pure player en informatique, hein, Grombil. Je trouve qu'il devrait changer de nom. Grombil, ça fait saut années 90, je trouve. Mais bon, je sais pas, en plus, je pense pas qu'ils aient tant de notoriété que ça. Mais bon, en tout cas, ils acceptent l'éther. Voilà. Allez, on continue, c'est des brèves. Dropbox a enfin fixé la valorisation pour son IPO. Vous savez que cette année, il va y avoir deux grosses rentrées en bourse dans le domaine de la technologie, Spotify et Dropbox. Dropbox a fixé lundi le prix de son introduction en bourse dans une fourchette de 16 à 18 dollars par action, ce qui pourrait donner une valorisation supérieure à 7 milliards de dollars en leur entrée en bourse. C'est moins que ce qu'ils demandaient ou qu'ils escomptaient au départ. Les précédents tours de table, la valorisation, on en était à 10 milliards de dollars pour Dropbox. Donc ça a été revu un peu à la baisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que le marché boursier dans le domaine de la tech n'est pas ce qu'il y a de plus stable et c'est assez volatile et il y a eu des déceptions. Snapchat notamment. Donc ils n'arrivent pas forcément l'année la plus facile. Hein, ils n'arrivent pas à l'année la plus facile. Aujourd'hui, Dropbox donc compte lever jusqu'à 648 millions de dollars via le placement de 36 millions de titres. C'est plus de 50 millions de dollars évoqués par les notices de son introduction en bourse auprès des autorités américaines. La branche capital risque de Salesforce.com a accepté d'acheter pour 100 millions de dollars d'actions ordinaires de catégorie A. Je ne vais pas vous réexpliquer les catégories A et les catégories B de Dropbox dans le cadre d'un placement privé à un prix par action similaire à celui de l'IPO. C'est du langage technique, mais en gros, je vais vous la faire schématique. Mais les bons potes, on leur fait des super prix et ils ont le droit d'acheter des actions avant que les Pékins moyens, c'est-à-dire vous et moi, on puisse toucher des actions, on puisse acheter des actions à des prix qui seront déjà fluctuants. Voilà, j'ai résumé un petit peu les choses. En gros, les gros se servent et puis on laisse les miettes aux boursicoteurs du dimanche. Oui, attention, ICO, dont on parle beaucoup, ça a certaines similitudes avec une intro en bourse, mais fondamentalement, c'est deux choses très différentes. L'ICO, c'est quand même un mélange entre de la crypto, c'est pas vraiment de l'actionnariat, du crowdfunding, c'est encore autre chose. Est-ce que j'achèterais du Dropbox? Dropbox est bien implanté, hein, 11 millions d'utilisateurs grâce effectivement à leur offre gratuite. Vous êtes beaucoup à avoir un Dropbox. Est-ce que vous êtes beaucoup à payer Dropbox? Ça, c'est une autre question. Est-ce que les entreprises feraient vraiment confiance à Dropbox? Ça, c'est encore une autre question. La notoriété n'est pas tout, l'utilité n'est pas tout. La rentabilité de Dropbox, c'est encore à prouver, hein. Ce n'est toujours pas une boîte qui... Ils ont de la perte nette, hein. La perte nette de la société est passée de 210 millions de dollars en 2016 à 111. Donc, ils ont moins de dettes. Ils épongent. Ils sont juste à 111 millions de dollars de pertes en 2017. Mais avant que vous vous disiez « Ah, mais ça n'a aucune valeur, une entreprise qui a de la perte. » On ne peut pas raisonner comme ça non plus. Les premières années, parfois les 10 premières années de ce type d'entreprise, c'est des entreprises qui doivent perdre énormément d'argent avant d'arriver à des seuils de rentabilité qui se font par des très grands nombres. Donc, il faut dépenser beaucoup au début pour aller capter, en fait, cette future clientèle et les convaincre après de payer ton produit. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le défi. Est-ce que Dropbox va arriver à faire payer notamment le grand public pour les services alors que les services cloud commencent à être de plus en plus intégrés à nos OS? Donc, à voir. C'est là où il y a un petit risque. Je ne veux pas vous donner de conseils sur Dropbox. Moi, de toute façon, j'ai le peu d'argent qui me reste est consacré à autre chose. T'as du mal à voir l'ambition de Dropbox. Quand même, c'est une grosse boîte, hein. En fait, les Dropbox, Uber, Amazon, leur but, c'est de tuer le marché. Oui, en tout cas, de conquérir le marché. Quelque part, on est dans l'absurdité du capitalisme. Toutes ces sociétés veulent être les premières et donc manger les autres. Mais une fois qu'elles sont premières... Enfin, il y a quelque chose d'absurde dans le raisonnement capitaliste. Ça, je vous le concède. Mais ça fait partie aussi de la nature humaine. Hélas, ça, c'est une autre question. Ils sont encore là car ils étaient les premiers, mais je pense pas qu'ils survivront. Perso, j'ai commencé. Ouais, mais ces derniers temps, ils ont plutôt été bons à intégrer le service Dropbox dans d'autres services. Ils ont plutôt bien négocié ça. Et aujourd'hui, moi, je garde Dropbox pour tout un tas de choses parce que pour notamment pas mal d'applications mobiles, c'est un peu le seul système on the cloud qui est reconnu, quoi. Donc, on verra. Allez, on enchaîne. Apple, ils ont dépensé des sous, Apple. Ouais, ils ont dépensé vos sous, messieurs les pigeons. Apple a racheté Texture. Et qu'est-ce que c'est que Texture? Bah, la meilleure moyen d'expliquer Texture, c'est que c'est un espèce de Netflix du magazine. Alors, nous, on le connaît pas en France parce que c'est que pour des magazines américains. Même s'il y en a un qui s'appelle Bon Appétit, c'est quand même un magazine américain. Et on dit Bon Appétit! Bon Appétit! C'est un magazine sur la bouffe aux États-Unis. En fait, c'est quoi? C'est pour un abonnement. Vous avez accès à plus de 200 magazines pour un abonnement de 10 dollars, pardon, par mois. Alors, pourquoi Apple a acheté Texture? Creusons un peu et réfléchissons ensemble, la chatroom. Eh bien, aujourd'hui, où on voit des Google et autres se démener avec des fake news, le manque de crédibilité et tout ça, Apple n'a pas vraiment réussi à faire prendre Apple News. Je vous rappelle qu'ils avaient essayé quand même de faire un truc Apple News. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent et est-ce qu'il y en a qui l'ont utilisé plus d'une fois? Même le grand public ne l'utilise pas. Mais par contre, Apple analyse, et je pense avec raison, qu'il va y avoir une vraie appétence pour des vrais... En tout cas, pour une couche de la population et surtout, je pense, une tranche d'âge pour... Le bon magazine, avec le bon journaliste, des belles mises en page, tout ça bien certifié, et ce genre de choses. Il y a quand même aujourd'hui encore une sécurité autour des titres de presse qu'on n'a pas sur Internet. Moi, je pense que Apple a acheté... Alors, ils disent que Texture ne changera pas, que l'offre ne changera pas. Pose-moi ce genre de question en fin d'émission. Là, je suis en train de faire un article. En fin d'émission, les questions qui n'ont rien à voir avec les articles. Bref, Apple dit que Texture ne changera pas, qu'il sera bien disponible pour Android, iOS et toutes les autres plateformes qui ne vont pas toucher au produit, mais il est fort probable quand même qu'il l'intègre dans l'offre Apple et dans le développement de l'OS. Donc, il est fort probable que vous ayez des formules d'abonnement à des magazines, à un ensemble de magazines proposés par Apple News. Ça pourrait arriver en France? Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, les gens de la presse seraient très contents de voir débouler une offre... alors, il y en a déjà, mais des offres kiosques bien construites où je donne 10€ par mois et j'ai accès à mes magazines favoris. Quitte à le mélanger d'ailleurs avec des offres premium de sites internet qu'on aime bien. Moi j'avoue que ça m'intéresserait moyen parce que je ne lis plus de magazines. Mais je suis comme vous. Je donne de l'argent à certains blogs que j'aime beaucoup pour qu'ils survivent. Mais quelque part, j'aimerais un système où tous ces blogs sont ensemble et je donne une bonne fois pour toutes, sans forcément changer la somme, mais juste pour le côté pas compliqué, quoi. Une fois qu'il restera une seule entreprise qui ont racheté la dernière, on fait quoi? Bah écoute, après, il y a un phénomène naturel. Hein. L'entreprise qui est tout en haut, elle a tendance à... De toute façon, regarde une bande de macaques. En observant les singes, tu comprends assez bien comment ça marche. Hein. Tu vas toujours avoir un mâle alpha qui va mordre tous les autres mâles pour être le mâle alpha, mais le mâle alpha, au bout d'un moment, il vieillit et t'as des aspirants alpha mâles qui viennent lui mordre les fesses et un jour, il se retrouve mis sur le côté et d'autres mâles alpha prennent la place. C'est un peu le cycle, quoi. Ça y est, il est lancé. On m'a lancé sur les macaques. Bah oui. En gros, une entreprise, rien, tout est impermanent. Rien ne dure. Dans l'industrie, c'est pas comme ça, si. Si, si. Les entreprises ont aussi des cycles de vie. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule entreprise qui ait réussi à garder une position dominante ad vitam aeternam. Et même celle qu'on pensait complètement indétrônable, je prends toujours l'exemple de la Paname. Vous ne réalisez pas, pour les plus jeunes d'entre vous, à quel point la Paname semblait une entreprise indéboulonnable dans les années 70. Ils avaient tout, quoi. Ils avaient tout. Et too big to fail, j'y crois pas trop. On verra. C'était les 5 minutes philosophiques de Jérôme. Non, mais c'est intéressant. Je pense que pour comprendre les dynamiques, il ne faut jamais oublier qu'on est des macaques avec des culs rouges. C'est vachement important. C'est quoi la Paname? C'était une compagnie aérienne. Allez, on continue. On continue, ça ne devait être qu'une... une semi-brève. Est-ce que Google chercherait à changer le nom d'Android Wear? Et pourquoi ça? En fait, manifestement, d'après un article de Engadget, les développeurs qui travaillent sur Android Wear travailleraient de plus en plus avec un nouveau terme. Ils parleraient de W, qui voudrait dire Wear OS, et qu'il y aura un projet dans les cartons assez rapide de la part de Google de rebrander effectivement Android Wear en Wear OS. Alors, ça paraît un nom de code, oui, pardon. Je suis un peu mélangé ce matin. J'ai la crève, hein. Soyez cool avec moi, la chatroom. Hein. J'ai la crève et au lieu de rester au fond de mon lit à boire des bonnes tisanes et bien au chaud, et là, je vous fais un Texcope. Hein, parce qu'il n'y a pas d'arrêt maladie chez Nowtech. Hein. Faut vraiment être à l'article de la mort. Alors, vous dites, oui, on s'en fout, Android Wear, Wear OS. Non, non, parce que Wear OS aurait présenté ça. En fait, le problème d'Android Wear, c'est que c'est très clivant. Et que, comme aujourd'hui, ce qui domine le marché du wearable, c'est Apple avec l'Apple Watch, et que l'Apple Watch est très propriétaire. C'est-à-dire, l'Apple Watch, elle est faite uniquement pour les gens qui sont dans l'écosystème Apple. Tu ne peux pas utiliser une Apple Watch si tu n'as pas un iPhone. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Et je pense que c'est pas prêt de changer. Parce que ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai une Apple Watch. Et ça a vraiment été construit comme une extension de l'iPhone, en fait. Plus qu'autre chose. Tout ça pour dire. De l'autre côté, bah, vous aviez Android Wear. Et du coup, on se disait, Android, une montre sous Android Wear, c'est un peu comme une Apple Watch. Alors que non, Android Wear est beaucoup plus ouvert qu'Apple Watch. Puisque vous pouvez faire fonctionner Android Wear sur iOS. Donc ça pourrait être quand même assez intéressant qu'ils utilisent le terme Wear OS et qu'ils le brandent. Nous, on est open. Nous, on n'est pas sectaire. Nous, on n'est pas un écosystème fermé comme celui d'Apple. Tout le monde peut avoir du Wear OS. Et même les gens qui ont un iPhone peuvent acheter une montre Wear OS. Donc, ça étend un peu plus. Android n'est pas un mot tant à la mode que ça ne l'a été il y a 5 ans. Aujourd'hui, on sent que même Google voudrait s'éloigner un petit peu d'Android. On le voit notamment avec les pixels. Je trouve, hein, c'est mon analyse marketing de la situation. Alors, pourquoi se rapprocher des termes Apple, macOS, watchOS, wearOS? Il y a un moment, tu sais, t'as pas non plus des choix. Tu peux appeler ton truc, je l'appelle Tartampion Wear. Ça reste un wear, quoi. Et voilà, wearOS, ça ressemble pas tant à Apple. Oui, il y a WatchOS, mais Wear OS, ça veut pas dire la même chose. Justement, WatchOS, c'est beaucoup plus clivant. Ça limite aux montres. Non, j'ai dit, c'est pas officiel, hein, c'est des rumeurs. Là, on parle de bruit de couloir. Donc, on verra. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Est-ce que pour se relancer, se rebooter, Google n'aurait pas intérêt à renommer finalement Android Wear? Ah, c'est officiel, d'accord. Moi, je trouve que le mot Android a de la gueule. Moi, je trouve qu'il commence à faire un peu poussiéreux. Même la notion même d'Android, un Android. Mais c'est moi. Hein. Puis même le logo, le petit robot vert et tout. Ça a quand même un côté bidouilleur geek, quoi, le monde Android. Et c'est pas comme ça qu'ils vont vraiment plaire au très grand public. À côté de ça, on peut critiquer Apple, mais ils ont cultivé une image, et à la fois sur leur prix, et à la fois sur image, les gens ont l'impression de s'acheter un petit morceau de Steve Jobs, un petit morceau de luxe, en s'achetant un produit iOS, et il y a cette sobriété. Notamment dans la com et dans l'architecture de la marque Apple, qui fait que c'est un objet de désir, quoi. Bah, le S9, je viens de le recevoir, il est encore dans son blister. Alors, je vais pas vous donner mon avis sur le S9, je l'ai pas encore ouvert. De quoi vous me parlez? Reste sur la photo. What? Pour moi, Apple n'est pas dans le luxe, contrairement à ce qu'on dit. C'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, ils sont comme les parfums, en fait, Apple. En fait, ils vendent une part de rêve et un certain univers, mais c'est un... C'est un produit, effectivement, de... Bon, enfin, bref, je ne vais pas vous faire toute une analyse marketing. Mais c'est pas du vrai luxe, Apple, hein. Je voulais que je donne un avis sur le blister du S9. Bah écoute, il est en plastique assez cristallin. Voilà. Meilleur OS pour tout? Le meilleur OS pour moi? Je vais vous donner une réponse que vous allez dire, c'est de la langue de bois. Je sais que vous aimeriez qu'on vous dise quel est le meilleur de tout. Je veux le meilleur. De toute façon, vous voulez que du meilleur. Le reste, vous en voulez pas. Eh ben ouais, mais Android et iOS, ils ont du bon dans les deux. Je suis désolé de vous dire ça. Je peux. En fait, le meilleur, ça sera le meilleur pour vous. Ça dépend de vous. Alors, après, on pourrait se poser la vraie question. Quel est le meilleur d'entre vous? Tiens, oh putain, je devrais vous retourner la question. Hein, c'est qui le meilleur d'entre vous? Trente-trois dix, c'était quel OS? Ah ben, vous voyez, il y a déjà un conflit. Il va y avoir du sang sur le canapé. Salut Olivier. Le parfum, c'est de l'eau, de l'alcool et des fleurs, et tu payes une blinde, c'est clair. Mais tu vends un univers, tu achètes un univers en fait. Ben voyez, il y a déjà un problème. Je vous demande de décider entre vous quel est le meilleur d'entre vous, et vous êtes incapable de trancher. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Et entre Fortnite et PUBG, quel est le meilleur? Tiens, allez, d'ailleurs, ceux qui me disaient, ouais, Jérôme, ça se dit pas PUBG. Allez écouter PewDiePie, comment il appelle PUBG. Comment il est. Il dit PUBG. Hein? Focus, oui, t'as raison. Bref, je répondrai à la question quel est le meilleur smartphone du monde et je répondrai à la question quel est le meilleur appareil photo du monde le jour où vous arriverez à vous décider pour me dire quel est le meilleur d'entre vous. Voilà. Je vous ai mis au défi. Tu regardes trop PewDiePie. Oh, la mauvaise foi. Ah non, Olivier, c'est certainement pas toi. Allez, on termine. Bah tiens, ça tombe bien qu'Olivier ça va, parce qu'on va parler de photos. Hein, une fois n'est pas coutume. J'ai deux articles photos pour la fin. Je voudrais vous montrer, vous l'avez peut-être vu, c'est un peu old, hein, ça date de la semaine dernière. Attendez, il faut que je nettoie juste un petit peu l'écran si je vous montre une vidéo. Mais en fait, c'est qu'est-ce qu'a fait un photographe? Il a attaché un gros projecteur LED sur un gros drone. Je sais pas d'ailleurs si c'est un... Je sais pas s'il parle du modèle du drone, mais je pense que c'est pas un petit drone parce que vu ce que la lampe crachait, ça devait pas être un petit drone. Et il s'est mis à éclairer de nuit des choses comme des montagnes. Vous voyez, hein, c'est pas des petits objets non plus, des montagnes, à les éclairer et ça donne des photos assez magiques, assez incroyables. J'ouvre juste pour voir s'ils disent quel drone ils ont utilisé. Non, on ne rentre pas dans ces détails techniques. Bon, après, les photos sont faites, pour ceux qui connaissent, avec un Phase One. Donc, ce n'est pas de la petite caméra. Un Phase One, la plupart d'entre vous, vous voyez, nous, on parle de Canon, Nikon et tout. Phase One, c'est juste une autre catégorie, hein, de caméra. C'est des pleins formats qui coûtent super, super cher. Je vous montre quand même la vie. Oula! Je vais vous montrer la vidéo, mais je vais couper le son histoire de ne pas trop se faire repérer. Mais je crois que là, c'est uniquement le GIF. Ah, j'ai perdu mon article. Hop. Alors regardez, vous allez comprendre le principe. Il balance effectivement un drone autour d'une montagne pour l'éclairer sur toutes ses faces. Et il se met en pose lente en fait. Et grâce à la pose lente, il va faire des photos. Est-ce qu'elles y sont les photos dans l'article? Ah putain, j'ai J'ai pas pris l'article où il y avait les photos. Il doit bien y avoir un lien. Lux Noctis. Oui. J'ai sa galerie. Alors, le photographe, c'est Ruben Wu. Et voilà le type de photo que ça donne. Vous avez probablement vu celle-là la semaine dernière. On dirait vraiment qu'il y a une auréole au-dessus d'une montagne. Mais j'ai tendance à préférer celle où on voit même pas la trajectoire du drone. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Si vous avez regardé nos vidéos sur le light painting, hein, rappelez-vous, faut une ouverture lente, en mode bulb. On reste ouvert, on n'ouvre pas forcément très grand parce que on n'a pas vu qu'on ouvre tout le temps et on n'est surtout pas obligé de se mettre dans des hauts ISO parce que on ouvre très très longtemps. Donc vous voyez, ça donne quand même des choses assez chouettes. Vous vous rendez pas compte, mais là il fait vraiment nuit et du coup. Il a envoyé le drone, on le voit là, hein, le drone juste au-dessus de la montagne et qui éclaire comme ça, doucement sur les façades. C'est assez chouette. Mais je trouve, enfin, allez voir, parce que là, effectivement, ça ne rend pas forcément honneur au travail de l'artiste. Mais c'est un travail assez sympa, une bonne conjugaison entre la technique et l'artistique. Pas forcément en mode bulb. Oui, tu peux te mettre en pause longue. Ça aussi, c'est chouette. Il a fait tourner le drone au-dessus de trois montagnes différentes. Après, alors, bien évidemment, il développe ses photos. Donc oui, il y a de l'étalot, il y a... Est-ce qu'il photoshoppe ça? Non, ça n'aurait aucun intérêt. Après, est-ce qu'il remonte un peu ses lumières intermédiaires et il baisse un peu ses noirs pour rendre la photo plus propre? Probablement. Mais ce n'est pas tricher. Une photo n'est pas finie tant que vous ne l'avez pas processée. Elle n'a pas donné, comme dirait Sébastien Roignan, une photo qui n'a pas eu de post-traitement n'est pas une photo qui a atteint son plein potentiel. Mais le post-traitement n'est là que pour renforcer le potentiel d'une photo et pas pour en créer un nouveau ou autre chose. Exactement comme le maquillage. Le maquillage, ça renforce un potentiel. Jusqu'au moment où t'en mets trop et que t'essayes de faire autre chose et être autre chose que ce que tu es, et là, c'est moche. Un modèle Nikon permet de dépasser 30 secondes de pause en interne. Bah, y a du bulb sur les Nikon. Ils ont pas de mode bulb ? Bref. En tout cas, je vous conseille d'aller voir. Il y a plein de photos. Et c'est assez chouette. Et on va terminer l'émission. Mesdames et messieurs, vous qui pleurez dès que je vous parle d'un appareil photo de plus de 500 euros, eh ben, préparez-vous à pleurer toutes les larmes de votre corps. Parce que l'appareil photo le plus cher du monde, il vaut 2,4 millions d'euros. Et en plus, il est tout petit. C'est celui-ci. Et il est tout vieux, il est tout pourri. Qu'est-ce que c'est que cet appareil photo? Eh bien, en fait, c'est effectivement un Leica, donc qui sont déjà chers de base, mais là, c'est un Leica de 1923. Remarquez quand même, hein, parce que c'est quand même vachement intéressant, parce qu'on a une vision des vieux appareils photo, les vieilles chambres, ce genre de trucs, quoi. Mais un Leica de 1923... Vous êtes déjà dans quelque chose de super compact, quoi. Avec objectif qui... Quelque part, le form factor n'a pas vraiment changé par rapport à un compact expert, quoi. Pas vraiment fondamentalement. Bon, la visée, elle est beaucoup plus sommaire et rustique qu'un viseur électronique. Mais, regardez les dials pour changer et tout ça. Ça n'a pas tant bougé que ça, quoi. Donc, c'est effectivement le record du monde pour un appareil photo vendu aux enchères. Donc, un prototype Leica datant de 1923. Il s'est vendu pour 2,4 millions d'euros le 10 mars. dans la prestigieuse galerie Wechlich à Vienne. Et la mise en vente, ça a débuté à 400 000 euros. Donc de base, déjà, il était à 400 000 euros. En fait, ce modèle attise beaucoup les convoitises parce que c'est un Leica 0. En fait, c'est un prototype de 1923, un objet extrêmement rare et qui a été sorti avant la commercialisation des derniers appareils de la marque. Et en fait, il n'a été sorti qu'à une vingtaine d'exemplaires, dont seuls 3 ont traversé le temps. Donc, il y a vraiment une rareté au truc. Je sais pas, l'article ne dit pas s'il fonctionne encore. Moi, à ce prix-là, je crois que je le mets vraiment dans une cloche en verre avec plein d'alarmes, hein, et je fais gaffe qu'il y ait des mecs qui puissent pas venir avec un élastique suspendu au-dessus de mes coffres forts et de mes vitrines, hein. Règle de base, les mecs, mettre des bouches d'aération dans votre chambre de fort, vous êtes vraiment des cons quand même. Faut être con. Avouez, c'est un peu con quand même. Ah ouais, on va les empêcher de passer, on va mettre des lasers qui se croisent dans la cheminée d'aération. Mais mec, putain, si t'avais pas mis d'aération, t'aurais pas ce problème. Oui, non, honnêtement, quand t'achètes un truc à ce prix-là, à 2,4 millions d'euros, c'est pas pour le prendre avec toi pour faire les photos de Simone après le bouc les oies, hein. Ah mais non, on n'achète pas ce genre de truc pour l'utiliser. Ça, on le met dans une vitrine. Encore mieux, on le donne à un musée. Ne brise pas le scénario de Ocean Eleven, effectivement. Pour faire des selles. Ouais, là, ça serait un peu la provoque ultime. Logan Paul achète un Leica à 2,4 millions d'euros pour faire des selfies avec un rat tasé. Mon Dieu. Quel monde merveilleux dans lequel on vit. Bon, alors la prochaine fois hein, que vous venez pleurer et pleurnicher dans les commentaires de YouTube en me disant « Oh, mais 500 euros, c'est un petit peu cher pour un appareil photo. » Je dirais « Bah écoute, tant que je te parle pas d'un appareil à 2,4 millions, tu te tais. Et tu dépenses ton argent. Et tu te plains pas. Tu fais ça avec le sourire. Le dictateur de la consommation. Achetez, achetez, achetez. » T'as un Zénith des années 80, ouais, c'est bien, ça garde, ça. Je connais pas les cotations, hein. Il y a beaucoup hein, d'appareils photo russes qui sont vendus aux puces, machin, parce qu'il y a une vraie mode autour, mais je connais pas après la taille des stocks, quoi. C'est où Pralbouc les oies? C'est juste après Bouze la Gandreuse. C'est dans le 5e quartier du 15e arrondissement, effectivement. Ouais, mais les Zéniths, ça s'est bien vendu, ouais, dans les années 80. Ah merde, ça existe. Ah oui, Pralbouc, je sais que ça existe. Mais Pralbouc, les oies, non. Ça, c'est un truc que j'ai inventé, Pralbouc, les oies. Mais avoue que Pralbouc. Bon, j'ai rien contre les Pralboucois, hein. Et Pralbouc. Je sens un peu que c'est le bout du monde, quand même. Mais on va encore dire que c'est que ce Parisien, complètement prétentieux, c'est très bien, Pralbouc, on y fait un excellent fromage. Voilà. En tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Je vois que des questions commencent déjà, effectivement, à pleuvoir. Donc, on remercie déjà nos super chatteurs. Ah, j'ai oublié d'ailleurs Marc Simon. Nos super chatteurs de ce Techscope 673, Pascal, Julien et Marc, on vous remercie énormément de vos super chats pendant cette émission. N'oubliez pas pour les autres qu'on a encore plus besoin qu'avant de vous sur Tipeee. Si vous voulez effectivement nous aider à continuer, nous aider à croître, nous aider à créer de l'emploi, parce que c'est le but de l'opération, on va dire, Nowtech, du projet Nowtech, c'est arriver à créer de l'emploi autour de notre activité. N'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee. On a besoin de vous. On aura toujours besoin de vous. Ne nous oubliez pas. Et n'oubliez pas surtout, si votre carte bleue est arrivée à expiration, de bien aller changer les trucs sur Tipeee. Les Zeniths étaient vendus par la Redoute et les 3-6. Ah ouais, d'accord. Alors, il n'y a pas de question platinium, tu me le confirmes? Je crois que j'ai vu qu'il n'y avait pas de question platinium. Ok, on prend les questions. Je vais... Salut, tu penses quoi de Jojol? Vous n'allez pas me la faire tous les matins, celle-là. Écoute, Jojol, j'ai rien contre lui. Ce qui fait... Comment vous expliquer? Écoutez, Jojol, son business model est basé sur faire le plus de vues possible. Il a trouvé les recettes pour faire le plus de vues possible. Il utilise ses recettes pour faire le plus de vues possible. Il aborde aujourd'hui la clientèle majoritaire de YouTube qui sont les 8-16 ans. Il fait des vidéos qui plaisent aux 8-16 ans. Vous pouvez... Moi, ce qui me fait rire dans votre détestation de Jojol, c'est que vous le regardez de manière obsessionnelle. Tout le monde l'a critiqué sur les vidéos qu'il fait, mais tout le monde les regarde. Je serais lui, je ricanerais bien. Parce que plus vous le détestez, plus vous le regardez. Et plus lui fait des vues, et plus son business model marche. Donc, j'ai envie de dire chapeau Jojol. Voilà, c'est son... Enfin, j'espère en tout cas pour lui que c'est son kiff. Après, est-ce que moi je regarde Jojol? Non, parce que j'apprends rien dans les vidéos de Jojol. Mais c'est moi, et moi j'ai mon âge. Voilà, c'est tout. Donc voilà, mais je n'ai rien, je l'ai rencontré Jojol. Moi je l'ai trouvé adorable, alors j'ai discuté avec lui 2-3 fois. Je l'ai trouvé très sympa, pas du tout prétentieux justement. Alors peut-être qu'il est devenu puant, je ne l'ai pas vu depuis pas mal de temps, mais non, voilà quoi. Moi, j'ai envie de dire, si vous aimez pas un YouTuber, retenez bien ce que je dis, les plus jeunes d'entre vous, là. Même les plus vieux. Si vous n'aimez pas un YouTuber, arrêtez d'être obsessionnel sur lui, arrêtez de le regarder, arrêtez de regarder son contenu, et peut-être qu'il changera de contenu. Mais les gens qui regardent de manière obsessionnelle ces gens qu'ils aiment pas, franchement, vous tombez dans le panneau, quoi, quelque part. Voilà, c'est tout. Mais pareil, là, j'en vois qui critique Léo Duff. Mais Léo Duff, il fait ses vidéos sur les polémiques. Il adore que vous le détestiez. Putain, mais vous comprenez pas comment ça marche, tout ça? C'est comme ça que ça marche. Ça a toujours marché comme ça. Donc, pourquoi vous vous intéressez, finalement, à des choses que vous aimez pas? C'est tout. Regardez ce que vous aimez. Vous verrez, la vie est beaucoup plus belle. Et on a beaucoup moins de frustration et d'aigreur. Moi, j'ai mis sur Twitter une vidéo que j'ai bien aimée d'Antox Colaboy, qu'il a fait en collab avec d'autres, qui parle du poids et quelque part de la responsabilité de ceux qui regardent sur YouTube. Regarder quelque chose, c'est déjà lui mettre un thumbs up. C'est le cautionner. Et... ça me fait marrer quand même de voir que ceux qui se font le plus critiquer, c'est les plus regardés. Vous trouvez pas qu'il y a quand même un truc bizarre? Hein? Vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre? Non, honnêtement, la chatroom. Vous trouvez pas qu'il y a un truc bizarre? Les trucs qu'on dit, ah, c'est dégueulasse, j'aime pas, ça devrait pas exister, c'est ceux qui font le plus de vues. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui est bizarre? Vous ne comprenez pas un mécanisme qui marche très bien? Faire de l'agaçant, faire de la polémique, faire des trucs qu'on critique, ça marche super bien. Bref. Allez, on va peut-être pas passer tout le fac là-dessus. Posez-moi des questions un peu tech, là. On va, parce que chaque fois, on fait du YouTube drama et du YouTube analyse. Oui, en fait, j'aimerais bien faire des émissions là-dessus. Pépé regarde YouTube, ça pourrait être drôle, mais... Bref, juste pour terminer là-dessus, regardez ce que vous aimez, soutenez-les, aidez-les à continuer, ne regardez pas ce que vous n'aimez pas. C'est aussi simple. Que penses-tu de Panono Camera? C'est quoi? Je connais pas. Désolé. Apple TV ou Chromecast? Ça dépend un peu ton écosystème. Si t'es tout Apple chez toi, l'Apple TV s'intégrera mieux. Mais la Chromecast, c'est quand même beaucoup moins cher et ça marche pas mal du tout. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec une Apple TV que tu pourrais pas faire avec une Chromecast. Et il y a des trucs que tu peux faire avec une Chromecast que tu peux pas faire sur une Apple TV. Testeras-tu le Honor View 10? J'en sais rien, je pense pas. À quand une vidéo avec Pépé? Bah écoute, quand l'occasion se présentera. Jérôme, si on colonise Mars une fois là-bas, sera quoi la monnaie sur place? Le Mars Coin. On dirait un animateur radio des années 80. Ah! Hey, bonjour les petits. Ah non, ça c'est. Oh, machin là. Vous voyez, je regarde pas moi ce que j'aime pas. David Lafarge Pokémon ou un truc comme ça là. Quels sont les meilleurs pour filmer avec son téléphone en intérieur des produits tech et pour se filmer? Quels sont les meilleurs quoi? Les meilleures apps? C'est ça? Ce serait bien de conseiller de temps en temps des youtubeurs. C'est-à-dire. Je fais déjà mes vidéos à apprendre à choisir sa caméra et tout. C'est un peu pour aider les youtubeurs. Où en es-tu de l'essai de la Surface Book 2? J'ai pas avancé d'un poil. Parce que là, j'ai le Galaxy S9 à faire avant. Pour mon GH4, as-tu un objectif photo à me conseiller pour capturer de la Formule 1? Bah, il va te falloir de la focale longue. Il te faut quand même, il va te falloir quelque chose de cher. Mais bon, commence déjà à t'entraîner, peut-être avec un objectif de kit longue focale, un 14-140. Ça te fait quand même un 28-280. Tu devrais déjà pouvoir commencer à t'entraîner à faire de la photo. Ce qu'il te faut, voilà, c'est une focale longue en fait. Ah non, surtout pas un fisheye pour faire de la photo. Ah d'accord, Léo Duff qui on dirait un animateur radio. Bah il a une bonne voix de radio, Léo Duff, ouais. Il m'a toujours fait rire avec sa. Bah, maintenant il a moins une tête de minot, mais. Avec sa tête de minot et sa grosse voix grave. Bon, moi j'aime bien Léo Duff. J'avoue que j'ai pas regardé depuis très très longtemps Léo Duff, donc je sais pas. Effectivement, ça pourrait être cool de faire une émission, tu nous partages les chaînes YouTube à suivre. Ouais, c'est une idée que j'ai depuis longtemps. Mais là aussi, j'ai pas le temps de le faire. Peut-être un jour. Panono caméra, grosse boule avec 36 appareils à plus de 2000 euros pour faire des photos 360. J'en pense que c'est un peu cher et que je ferai pas de test là-dessus, parce que pour l'instant, je suis pas très photo 360. Que vois-tu quand tu fermes les yeux? L'arrière de ma tête. Comme vous, non? Nouveau design iPhone 10 ou S9? Bah, l'iPhone 10 a plus de nouveau design que le S9. Il paraît que dans l'espace, il n'y a pas de brevet, donc l'organisation qui ira sur Mars pourra partir avec tous les brevets sans société techno. Ça me semble un truc très théorique et que. Ça me semble très théorique. Pour filmer les Toro Rosso, tu pourras prendre. Attends, pour filmer les Toro Rosso, tu pourras les prendre en pose longue quand elles seront sur le bord de piste. J'ai pas. Je suis désolé, je sais pas ce que tu veux dire par Toro Rosso. Existe-t-il les adaptateurs pour ajouter du grand angle? Oui, alors ça s'appelle des bonnettes en fait. Mais c'est un peu comme mettre un objectif sur un smartphone. Il faut être conscient que tu rajoutes du verre sur du verre. Donc ça va détériorer la qualité de ton image. Mais je crois que ça existe. Alors pour le spécifiquement pour le FZ1000, il faudrait demander à Panin. L'annonce du Fuji XH1, oui, j'ai vu, j'ai regardé les specs, il a l'air très bien. Je l'ai pas testé. Il a l'air très bien, peut-être pas suffisant pour vraiment rentrer dans la cour de la vidéo, ce qui manque un peu à Fuji aujourd'hui. Mais il y a des bonnes critiques, hein, des très bonnes critiques. Aurais-tu le temps de faire des critiques de nos vidéos à travers Tipeee? C'est une idée de live. Là, aujourd'hui, ma bataille, mon fils, ma bataille en ce début 2018, c'est d'arriver à refaire des lives pour les tipeurs et les refaire régulièrement. Je n'arrive pas à trouver le temps de le faire. J'essaye de trouver la bonne formule. En fait, voilà, la bataille 2018, c'est 2 vidéos par semaine sur Nowtech. Est-ce qu'on peut y arriver? C'est encore très difficile. 2 vidéos telles qu'on les fait nous. Parce que mine de rien, un truc comme vous avez vu hier, c'est beaucoup de montage. Hein. Il y avait 1h30 de discussion et il y a eu beaucoup de stitching. Ça a été quasiment 2 jours de travail de montage. C'est pas si simple que ça. Donc ouais, les vrais objectifs Nowtech 2018 en prod, en contenu, c'est de maintenir ce qui existe, d'avoir un petit peu plus d'émissions par semaine sur la chaîne principale et arriver à trouver le temps pour refaire des lives privatifs pour les contributeurs. Ah oui, Toro Rosso sont des Formule 1 de Red Bull. Je connais tellement pas la Formule 1. Désolé. Bon, je pensais que c'était un dessin animé japonais, Toro Rosso, que je connaissais pas. As-tu prévu une séance privée Tipeee? Ben justement, j'aimerais vraiment rétablir et peut-être donner beaucoup plus de régularité à des lives privés pour les tipeurs. Quel est l'intérêt de l'Apple Watch Nike juste pour le design ou elle est des trucs en plus en moins? C'est juste le bracelet qui est exclusif. Et un fond d'écran, je crois. Mais c'est tout. Dépêche-toi, on est en mars, ouais, je sais. Fuji, c'est des appareils de street photographe hipster qui se la pètent un peu. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Fuji, c'est des bonnes. Non, on peut dire ça de Leica à la limite et encore, mais pas de Fuji. Ça revient cher de payer un monteur? Bah ouais. Enfin, tu sais, déjà, payer un SMIC, c'est cher. Quand on a. Ça dépend du niveau de retenue de ton entreprise, mais. Un SMIC, ça coûte cher. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des charges aussi qui vont avec. Et un monteur, c'est souvent un intermittent. Oui, ça coûte cher. Non, les week-ends, c'est sacré. J'essaye, ça c'est une question après de... Sinon, je vais devenir fou. Je me bats pour essayer de ne plus travailler le week-end. Et je vous jure que ce n'est pas facile. Mais je ne veux plus travailler le week-end, il ne faut plus que je travaille le week-end. Et donc il n'y aura certainement pas d'émission le week-end. Sony offre des... Alors, il ne les offre pas, mais oui, il existe des adaptateurs pour des objectifs d'autres marques sur Sony. Je fais un peu le tri dans vos photos parce que je peux pas. Dans vos photos. Dans vos questions, parce que je peux pas répondre à tout le monde. J'ai un iPhone 10. C'est quoi qui fait que le XH1 est pas prêt pour la vidéo? Il est prêt pour la vidéo et il fait des choses intéressantes, mais il apporte pas non plus des trucs qui vont faire qu'on va lâcher nos familles actuelles pour passer chez Fuji. En fait, il s'est enfin mis à jour pour faire de la vidéo pour les gens qui sont déjà fans de Fuji. Mais ils n'ont pas sorti une caméra qui va permettre de conquérir un nouveau public. Quels sont les meilleurs accessoires filmés avec son téléphone en intérieur des produits tech et pour se filmer? Ben Guillaume, va voir la vidéo. Il faut d'ailleurs qu'on fasse la deuxième un de ces jours. Comment filmer un objet? J'y donne pas mal d'accessoires. Alors, j'y mets mon appareil photo, mais tu peux y mettre ton smartphone. Donc, va voir cette vidéo. Salut, quel est le meilleur YouTuber tech francophone hors toi? Pourquoi il y en a d'autres? Tu te doutes bien que je vais pas te répondre. Ils sont tous excellents. Tous mes confrères sont les meilleurs. Et voilà, comme ça, j'ai le problème avec personne. Un SMIC, ça coûte cher, mais on peut pas se loger avec LOL, le serpent qui se mord la queue. Bah oui, de toute façon, c'est un peu le problème économique de la production de contenu sur YouTube aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est très difficile comme business model. Écoute, Vaya, j'ai enfin enlevé mon abonnement Orange à mon Apple Watch. Donc, elle ne fonctionne plus en 3G, en 4G. J'ai même pas vu la différence. Donc, à moins que vous ayez une utilisation spécifique de la Watch pour mettre la 3G dedans et la 4G dedans, en fait, ça sert à rien. As-tu une petite nostalgie de Periscope? Mais alors, pas du tout. Il y a bien un truc qui me manque pas, c'est bien l'ambiance qu'il y avait sur Periscope. Focus. Tu me traites de focus ou tu me dis de focuser avec une faute d'orthographe? La légende raconte que dans le 15e, ils ont tous des Pentax. Oh, c'est méchant pour Pentax. Mais non, mais je vous adore le 15e, vous savez. Vous le savez bien. Non, j'ai reçu le Galaxy S9 Plus. Parce que vous doutez que mes tests vont surtout être des tests photos. Parce qu'honnêtement, je vais peut-être vous faire un unboxing et un truc sur le produit pour le faire. Mais en fait, ça m'intéresse pas du tout le reste. Qu'est-ce qui sert à rien? Qu'est-ce que j'ai dit? Netflix ou streaming? Steaming. Streaming. Je connais pas streaming. Et si c'est un truc complètement illégal, oui, il sera interdit au bout d'un moment. Mais après, c'est certainement très bien si tu le payes pas. Pour toi. C'est peut-être beaucoup moins bien pour les producteurs de contenu. Mais ça... le dernier film que j'ai vu je sais plus. Ah si, je me suis regardé Scott Pilgrim sur Amazon ou Netflix, je sais plus. J'adore Scott Pilgrim en fait comme film. Bon, je vais devoir arrêter là. Parce qu'il est déjà 9h20. Et il y a du boulot. Vous aussi, peut-être. Gardez vos problèmes pour... gardez vos questions pour demain. J'y répondrai... Ah ben non, c'est Marion demain. Ben, elle y répondra demain pour certaines. Puis sinon, vous les gardez pour jeudi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. J'allais dire, faites de beaux rêves. Passez une bonne journée. Et on se retrouve jeudi. Ciao tout le monde. Bye bye.